Le calendrier de la mise en œuvre de l'accord de Bougival se précise. Les sénateurs examineront le projet de loi constitutionnelle le 24 février prochain. L'agression d'un jeune homme à Koumac, blessé à l'arme blanche par un voleur à la suite d'un cambriolage hier dans un magasin. Vous entendrez son beau-père qui tient le commerce. Réhabiliter l'agroforesterie en introduisant des variétés plus résistantes. C'est aujourd'hui le lancement du projet Kiwa Résico. Il vise à renforcer la résilience des communautés rurales aux îles Loyauté et au Vanuatu. À l'étranger, l'armée israélienne ramène le corps du dernier otage retenu à Gaza à la fin d'une douloureuse quête depuis plus de 2 ans. En métropole, l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans se confirme. Les députés ont voté le texte qui prend maintenant la direction du Sénat. Et puis en sport, les handballeurs français battus par les Espagnols ce matin à l'Euro. S'ils veulent se qualifier pour les demi-finales, les Bleus devront impérativement battre l'Allemagne jeudi matin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Il y a 2 semaines, le gouvernement a présenté un projet de loi du pays visant à encadrer les opérations aériennes domestiques sur le territoire. Ces nouvelles réglementations concerneraient les exploitants commerciaux d'avions, hélicoptères ou ULM. Qu'en pensent les professionnels du secteur? Nous en discuterons dans le magazine Citoyen dès l'enfant de ce journal avec Jean-Michel Rio, le gérant de Caledonia Aviation, Gunther Hickmann, le gérant de la société Ovol ou encore Olivier Paul, responsable d'Air Paradise. Ils pourront échanger avec Thomas Bertin, le directeur adjoint de l'aviation civile et Christophe Bruni-Yaya, chef du service de la sécurité de l'aviation civile. Ce sera aussi l'occasion d'échanger avec eux sur l'état global du secteur aéronautique en Nouvelle-Calédonie. Un citoyen qui est à retrouver donc dès la fin de ce journal. Le calendrier se précise pour la mise en œuvre de l'accord de Bougival et de l'accord complémentaire Élysée-Oudinot. La réforme constitutionnelle sera examinée le 24 février par le Sénat, selon l'ordre du jour de la Haute Assemblée qui a été rendu public hier, Elisabeth Noir.
C'est un calendrier conforme à l'accord complémentaire Élysée-Oudinot qui prévoit en février l'examen et le vote du projet de loi constitutionnelle au Sénat, avec les modifications nécessaires au regard de la publication du nouvel accord. Les sénateurs seront saisis en première lecture du projet de loi constitutionnelle. Un calendrier serré, puisque ce sera juste avant la suspension des travaux parlementaires pour 3 semaines en raison des élections municipales. L'objectif est que ce projet de loi constitutionnelle soit adopté au Sénat dès le mois de février, puis à l'Assemblée nationale en mars-avril, juste avant la réunion du Congrès de Versailles, qui réunit, rappelons-le, députés et sénateurs, et qui doit adopter la réforme constitutionnelle avec une majorité des 3/5. Un calendrier ambitieux, mais très incertain, en raison notamment de la situation politique nationale, mais aussi des divisions exprimées sur le territoire autour de cet accord. Il faut rappeler que le projet de loi constitutionnelle prévoit notamment le dégel du corps électoral pour les élections provinciales. On sait que de part et d'autre, les groupes politiques, signataires ou non, vont effectuer un lobbying auprès des parlementaires pour influencer leur vote. L'adoption de la réforme constitutionnelle par le Sénat ne devrait pas créer trop de problèmes, mais ce sera plus difficile à l'Assemblée nationale, où les oppositions sont vives de la part de LFI, mais aussi du Rassemblement national et peut-être du Parti socialiste. Toujours est-il que si la réforme constitutionnelle est adoptée, l'accord politique sera soumis aux Calédoniens au mois de juin ou de juillet.
Et ce projet de loi constitutionnelle issu de l'accord de Bougival prévoit le dégel du corps électoral pour les élections provinciales. S'il est donc adopté par le parlementaire et approuvé par les Calédoniens, les natifs et ceux qui peuvent justifier de 15 ans de résidence en Nouvelle-Calédonie pourront prendre part au scrutin provincial cette année. La durée de résidence serait ensuite abaissée à 10 ans pour les prochaines mandatures. L'association Un cœur, une voix est satisfaite de ce dégel, même si ses membres auraient préféré une ouverture à 5 ans, par exemple. Et malgré l'accord signé, Un cœur, une voix a décidé d'introduire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Son président, Raphaël Romano, était ce matin notre invité.
Tant que ce n'est pas signé, tant que ce n'est pas fait, prudence et mère de sûreté. La Cour européenne des droits de l'homme, elle peut avoir un autre regard et une autre vision, parce qu'en fait, le droit de vote, c'est un droit fondamental. Il y a des gens qui sont morts pour le droit de vote. C'est-à-dire que dans une démocratie, on a fait le choix de dire que le peuple élit ses élus. Eh bien, nous, on va essayer de démontrer à la Cour européenne des droits de l'homme que le caractère transitoire qu'ils ont émis pour qu'on arrive à une décision des Calédoniens qui ont choisi par 3 fois de rester et de maintenir la Nouvelle-Calédonie française, il est terminé. Aujourd'hui, il faut sortir de ce schéma-là. La démarche, elle est de dire, ensemble, on va essayer de faire que la démocratie, elle soit respectée en Nouvelle-Calédonie. Donc, il est important que ça soit gravé dans le marbre, et c'est la CEDH qui mettra le point final à cette mesure. C'est pas gagné. La Cour européenne des droits de l'homme, elle peut dire que non, c'est normal. Sauf que ça va être compliqué pour elle de dire on a décidé que c'était transitoire et là maintenant de dire que c'est définitif et inscrit pour toujours.
L'association dispose désormais de 4 mois pour formuler son recours. Elle espère aussi pouvoir également programmer un déplacement à Paris pour rencontrer les parlementaires et évoquer avec eux la question du dégel du corps électoral. Revenons maintenant sur cette violente agression qui s'est déroulée hier matin à Coumac. Peu avant 10h, le beau-fils du gérant du magasin Tektronik, spécialisé dans l'équipement informatique et téléphonie, a été blessé par un coup de couteau alors qu'il tentait d'arrêter un individu surpris en train de commettre un vol à l'étalage. L'homme de 29 ans a été poignardé au ventre au cours de l'altercation, mais ses jours ne sont pas en danger. Pascal Nguyen est le gérant du magasin Tektronik et beau-père de la victime. Il revient sur les faits.
L'homme est rentré dans le magasin. Déjà, il est rentré avec sa capuche, donc c'était un peu bizarre. Il a voulu une lampe au light qui tourne dans les 39 000 francs. C'était pas moi qui étais là, c'était ma vendeuse. Elle l'a posée sur le comptoir et le temps qu'elle prenne le facturier, qu'elle se retourne, il a pris la boîte et il s'est enfui.
Et là, votre beau-fils est intervenu ?
Il a pris sa voiture, il a été le poursuivre. Donc il l'a rattrapé et de là, il a sorti son couteau. Là, il est toujours à l'hôpital ses organes vitaux ne sont pas touchés. Ça ne serait que le muscle, c'est sur le flanc gauche. Bah, il l'a échappé belle. Il aurait pu mourir pour 40 000 francs. Voilà.
L'auteur du vol et du coup de couteau, un jeune majeur originaire de Poum, est déjà connu des habitants pour des faits de viol et de violence. Il a très rapidement été interpellé par les gendarmes. Pascal Nguyen déplore une montée des incivilités sur la commune de Coumac.
Des gens comme ça, malheureusement, après, ils n'ont plus de frein. Quoi. Je veux dire, la vie humaine n'a pas d'intérêt pour eux. Ils peuvent vous tuer pour une lampe, pour n'importe quoi. Je veux dire, on n'est plus en sécurité. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'électrons libres qu'on n'arrive pas à contrôler et qui se permettent de... peut-être maintenant doter la vie comme ça, sans impunité, juste parce que, voilà, on refuse quelque chose, ou parce qu'ils volent une lampe, ça devient le Far West, quoi. Il y a un gros travail à faire au niveau des coutumiers de la province Nord, de voir tous ces cas sociaux, et puis au lieu peut-être de les emprisonner, mais peut-être de les raisonner.
L'agresseur a été placé en garde à vue hier et devrait être présenté prochainement à la justice. 11h et bientôt 38 minutes, une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment une page consacrée à la préparation des élections municipales.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La ville de Nouméa recrute des sapeurs-pompiers volontaires.
Si vous souhaitez travailler au centre de traitement de l'alerte situé à Normandie, vous avez jusqu'au 16 janvier pour postuler.
Et si vous préférez exercer dans un des deux centres de secours, vous pouvez candidater jusqu'au 6 février. Toutes les infos, conditions, phases de recrutement et dossiers de candidature sont disponibles sur le site de la ville www.nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 24 38 18.
Alerte chaleur maximale chez Subaru. L'été fou de Subaru revient. Les prix fondent et les sensations montent. Le Crosstrek, le Forester et l'Outback vous attendent. Robuste, fiable et taillé pour l'aventure avec des offres de folie. Direction Subaru au village automobile à Nouméa au PK4 ou chez NC Motors Kone pour en profiter dès maintenant.
Offre valable jusqu'au 31 janvier 2026 dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Les partenaires sociaux demandent un rendez-vous avec la présidente et les élus du Congrès dans un courrier signé par l'ensemble des organisations syndicales et patronales. Ils s'inquiètent de la situation qu'ils qualifient d'une gravité exceptionnelle concernant les 2% du FSH et dénoncent l'amendement adopté par le Congrès le 23 décembre dernier. Nous n'accepterons pas que les contributions des entreprises et des salariés soient détournées de leur objet initial pour compenser des choix budgétaires inappropriés, écrivent notamment les partenaires sociaux. Venons-en maintenant à la préparation des élections municipales. Païta J'y crois, c'est le nom de la liste conduite par Antoine Romain pour les municipales des 15 et 22 mars prochains. Une liste soutenue, Nicolas Legrand, par le maire sortant, Marilyn D'Arcangelo.
Oui, c'est le fruit d'un engagement pour Antoine Romain, entrepreneur il y a 35 ans à Ducos. Il a ensuite été journaliste avant de travailler au Congrès et au gouvernement. Et enfin, il a passé 10 années à la mairie de Païta, au secrétariat général et au cabinet des deux derniers maires, Willy Gattuo et Marilyn D'Arcangelo. Pour Antoine Romain, il était donc naturel de se présenter avec le soutien des loyalistes, même s'il a présenté une liste avec de nombreux colistiers issus de la société civile.
Il y a une notion de continuité, puisqu'il y a certains élus et un soutien, effectivement, de la maire sortante. Et il y a également une notion de changement de méthode et de changement de façon de faire. D'abord parce que c'est un changement d'homme. Et puis parce que je pense aujourd'hui qu'il convient d'être un peu plus en adéquation avec les demandes des administrés et de la population. Et pour ce faire, nous proposerons une réorganisation, effectivement, de la commune dans le cadre de ses services, avec des pôles qui sont un petit peu différents et qui sont plus en lien avec ce que demandent les administrés. C'est pas une liste loyalistes, elle est soutenue par les loyalistes. Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt d'avoir obtenu ce soutien. Toutefois, effectivement, la liste, c'est une liste qui est essentiellement composée de gens de la société civile. Je ne dirais pas que c'est une liste apolitique parce que pour moi, ça n'a pas de sens de conduire une liste apolitique, surtout dans la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Mais évidemment, l'objet de cette campagne, l'objet du programme, c'est bien de travailler pour Païta, avec les gens de Païta.
Païta nous ressemble, Païta nous rassemble, c'est le slogan de la liste d'Antoine Romain qui a présenté les grandes lignes de son programme face à la presse ce matin à la Reine du Sud.
Ce programme est fondé, je dirais, sur deux piliers principaux. Le premier, qui n'est pas une surprise, c'est la notion de sécurité au sens large. Pour Païta, il y aura besoin d'un renforcement de notre police municipale, mais ça c'est plutôt pour la partie répression, mais également tout ce qui concourt à la diminution du sentiment d'insécurité. La propreté urbaine est importante en la matière, l'éclairage public, de lutter contre les tags et surtout d'ouvrir des espaces pour que les gens de Païta puissent échanger et se rencontrer. Et ça rejoint l'autre pilier qui est la qualité de vie. Aujourd'hui, Païta est une commune importante, c'est une commune vaste. Il faut permettre aux gens à la fois de se rencontrer, à la fois de se divertir, à la fois de pratiquer le sport qu'ils veulent ou les activités ludiques qu'ils peuvent le faire et également encourager l'accès au littoral puisque ça, c'est primordial pour les habitants de Païta. Et Païta a une façade maritime qui est tellement magnifique qu'on ne va pas en priver ses administrés.
Antoine Romain qui présentera le détail de son programme au cours des prochains jours dans une campagne qui se fera autour de réunions de proximité, mais aussi de meetings.
Et notez qu'à la fois, c'est Steven Skaouda qui a annoncé officiellement ce matin sa candidature, élu de l'opposition municipale Calédonie Ensemble depuis 2024. Il tirera une liste qu'il baptise sans étiquette. Osons la foi.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec d'abord la réponse à la question d'hier et 58% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment que les élections municipales sont des élections politiques. Ils sont 42% à penser que ce n'est pas le cas. Voici notre question du jour. Quelle est votre réaction après la réélection d'Emmanuel Tchibaou à la présidence de l'UC qui tenait son congrès le week-end dernier à Marais? Êtes-vous inquiet, surpris ou rassuré? Si vous êtes inquiet, vous tapez 1. Si vous êtes surpris, vous tapez 2. Si vous êtes rassuré, vous tapez 3 et vous envoyez votre réponse au 3146. Dans l'actualité de ce mardi également, ce communiqué du président de l'Assemblée de la Province Nord qui vient de nous parvenir. Il signale que dans la nuit du 24 janvier 2026, le dock du district forestier nord de Koumac a été la cible d'un incendie qui a réduit en cendres l'intégralité des infrastructures et du matériel essentiel à la gestion des ressources forestières. Cet acte odieux, écrit Paul Néaoutine dans ce communiqué, ne porte pas seulement atteinte à un outil de travail, mais fragilise gravement la capacité de notre collectivité à assurer des missions de service public essentielles pour la population et l'environnement. Je condamne avec fermeté cet incendie et j'appelle à ce que les valeurs de respect et de préservation du bien commun priment, écrit Paul Néaoutine dans ce communiqué. 480 millions de francs pour soutenir la résilience des territoires ruraux aux îles Loyauté et au Vanuatu. Le projet Kiwa Résico est officiellement lancé aujourd'hui à Port-Vila. Sur 3 ans, l'Institut agronomique néo-calédonien va piloter cette mission de grande ampleur pour rendre les îles du Pacifique plus résilientes face au changement climatique. Charlotte Coulson.
Risque naturel accru, insularité, oui, les territoires ruraux sont plus vulnérables face au changement climatique et socioculturel. C'est le cas de certaines îles de la Nouvelle-Calédonie et du Vanuatu. 12 territoires ont été choisis pour participer au projet. Marais, Lifou, Ouvéa et 9 îles de l'archipel vanuaté. Des communautés qui perdent en résilience, comme l'explique Célia Poulaï, chef de projet Résico Nouvelle-Calédonie à l'IAC.
Le projet est né de différents constats, notamment en Mélanésie. Il y a une biodiversité qui est naturellement faible parce qu'il y a eu très peu de variétés qui ont été introduites historiquement. Donc ils ont plusieurs espèces, mais peu de variétés en fait au sein de ces espèces. Donc du coup, elles sont beaucoup plus vulnérables. Ça, c'est un premier constat. Après, il y a énormément de changements socioculturels avec les effets de la mondialisation qui amènent à davantage partir sur des produits importés et moins rester sur les produits traditionnels. Donc là, le but, c'est vraiment de pouvoir revenir un peu à la base et de moins dépendre des produits importés. Et aussi, ça a un lien évidemment avec la santé, parce que plus on mange de produits préparer. Il y a de plus en plus de problèmes de santé. Donc, c'est vraiment un lien environnement, agricole, santé publique.
Un Kiwarésico est lancé officiellement aujourd'hui. Les partenaires sont réunis à Port-Vila pour discuter des projections sur les 3 années à venir. Les équipes bénéficient pour cela, nous l'avons dit, de 480 millions de francs, financés à près de 80% par l'initiative Kiwa, solution fondée sur la nature. Le projet se déclinera en 5 tâches. Une première, pour recenser les savoirs traditionnels en se focalisant sur la place des femmes au sein de ces communautés rurales. Viendra ensuite le temps de l'action, l'objectif et, avec les populations locales, de réhabiliter l'agroforesterie en introduisant des variétés plus résistantes, comme l'explique Célia Poulailler.
Donc le but, c'est de voir un peu qu'est-ce qui existe en matériel végétal sur les îles concernées, de pouvoir les multiplier, de pouvoir les diffuser à ceux qui en ont besoin et par la suite, un petit peu plus tard dans le projet, aller peut-être chercher d'autres espèces qui sont, par exemple, résistantes à certaines maladies, à certains ravageurs. Par exemple, le taro qui est résistant à salinité, parce qu'on voit que les eaux montent, donc du coup, les sols sont de plus en plus salins. Plus concrètement, on a une tâche qui est destinée à la construction de 2 serres de quarantaine au Vanuatu et des serres aux îles Loyauté.
Jusqu'au mois de septembre, les équipes vont aller à la rencontre des communautés qui ont répondu à l'appel à la manifestation d'intérêt et identifier leurs besoins pour ensuite mieux coordonner les actions de terrain.
Une information pratique avant une nouvelle pause dans ce journal. Après le passage de la dépression météo la semaine dernière, la province sud signale des incidents sur le GR1 dans le Grand Sud. Plusieurs arbres sont en effet tombés au travers du chemin, notamment sur les étapes 4 et 6, ce qui rend la progression plus difficile. Certains troncs ont été déjà dégagés, mais des obstacles subsistent, en particulier après le refuge de Tristianopsis. À noter également qu'après un accident technique sur la ligne de crête, les bornes d'appel tout le long du sentier de Grande Randonnée 1 sont temporairement hors service. Les randonneurs sont donc appelés à la plus grande vigilance et à bien anticiper leurs déplacements. Il est 11h47, une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, ce sera l'actualité dans le monde et en métropole. Israël a récupéré le corps du dernier otage retenu à Gaza.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Bonne année avec Canal+. Et si 2026 vous offrait toutes les chaînes Canal+, à tarif canon pendant un an? En janvier, profitez de l'offre exceptionnelle à 3000 francs par mois au lieu de 8000 francs par mois pendant un an. À vous le cinéma ultra récent, F1, le film, Mission Impossible, The Final Reckoning ou encore les nouvelles saisons de Loup-Garou et BRI. Retrouvez aussi le meilleur du sport avec l'UEFA Champions League et 100% du top 14. Tout ça, c'est sur Canal+, à seulement 3000 francs par mois au lieu de 8000 francs par mois pendant un an. Faites-vous plaisir! Offre valable jusqu'au 31 janvier pour tout nouvel abonnement de 12 mois à Sélection Plus. Moins en cours offert, puis 3000 francs par mois au lieu de 8000 francs par mois pendant 12 mois. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité à l'étranger, on retrouve Jean-François Baudin.
Et le corps du dernier otage israélien retenu par le Hamas à Gaza a été rendu à sa famille. C'est une étape évidemment très importante pour Israël, 843 jours après la violente attaque du groupe terroriste palestinien en territoire israélien, qui avait fait, je vous le rappelle, 1181 morts, 251 autres personnes avaient été kidnappées. Le retour du corps du dernier otage est donc une étape importante, mais il a fallu que l'armée israélienne mène une opération d'ampleur pour aller le récupérer. Frédéric Simon pour Europe 1.
L'opération, baptisée Courage du cœur, a débuté il y a 2 jours lorsque des renseignements sur l'endroit où le corps de Ran Gvili, un policier israélien de 24 ans tué au combat le 7 octobre 2023, sont parvenus à l'armée israélienne. Plusieurs centaines de soldats ont été mobilisés, parmi eux des médecins légistes militaires. Ils ont travaillé d'arrache-pied dans un cimetière de Gazaville, contraints de déterrer puis d'identifier pas moins de 250 dépouilles avant bien sûr de les remettre en terre. Un travail délicat et éprouvant, mais nécessaire pour les Israéliens. Plus aucun otage vivant ou mort, ne se trouve désormais dans la bande de Gaza, un tournant plus que symbolique. 843 jours après l'offensive terroriste du 7 octobre, dont le bilan s'est élevé à 1180 tués et 251 personnes kidnappées. Sur le plan géopolitique, le retour du corps de Ran Gvili ouvre la voie à la mise en œuvre de la phase 2 du plan Trump pour la bande de Gaza. Établissement d'organismes de gestion du territoire, déploiement d'une force internationale de stabilisation et retrait progressif des troupes israéliennes. Autant d'étapes conditionnées par Israël appel au désarmement du Hamas et au retour du dernier otage pour la seconde des conditions. C'est désormais chose faite. Tel Aviv, Frédéric Simon, Europe 1.
En métropole, Emmanuel Macron voulait aller vite et ça a été le cas. Le chef de l'État avait annoncé une procédure accélérée pour faire passer un texte destiné à interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans, ainsi que l'interdiction des téléphones portables dans les établissements scolaires. En fait, le texte a fait l'objet d'une proposition de loi portée par la députée Renaissance Laure Miller. Il a été adopté tôt ce matin pour nous à une large majorité. Il faut dire que tous les groupes politiques y étaient favorables, à l'exception de la France Insoumise. Écoutez le député LFI, Rodrigo Arenas.
L'expérience australienne montre qu'en fait, ça ne marche pas, puisque ce n'est pas la question. Aujourd'hui, on est sur la culpabilisation et la criminalisation des usagers, alors que nous, on pensons à la France Insoumise qu'il faut au contraire pénaliser ceux qui sont des véritables dealers pour nos enfants, puisque les algorithmes et le fonctionnement provoquent des addictions. Donc nous considérons aujourd'hui qu'il faut aller taper les plateformes et non pas les victimes de ces plateformes numériques que nous connaissons tous.
Et le texte va maintenant être examiné au Sénat. En cas de vote positif, il entrera en vigueur en septembre 2026. Le Sénat qui poursuit en ce moment le texte de loi sur la fin de vie, texte vidé de sa substance puisque l'article censé déterminer les conditions de l'aide active à mourir a été retiré par les sénateurs. Il travaille donc sur les autres aspects du texte et notamment l'accès aux soins palliatifs et leur développement. Enfin, réagit le sénateur indépendant Emmanuel Capu.
Nous arrivons enfin au débat par lesquels nous aurions dû commencer. C'est bien sûr le soulagement de la souffrance. C'est aussi l'accompagnement des familles et c'est en réalité l'accompagnement jusqu'à la fin de la vie. Donc c'est beaucoup plus global.
Et la question du financement des soins palliatifs reste toutefois à préciser. Et puis pendant ce temps, Gérald Darmanin a fait une proposition choc. Le ministre de la Justice évoque un moratoire sur l'immigration. Proposition qu'il a formulée lors d'une interview sur LCI.
Si on veut un débat qui consiste à dire, par exemple, imaginons une suspension d'immigration pendant 2-3 ans, on pourrait imaginer cela. Suspension pendant 2-3 ans.
Ça veut dire que pendant 3 ans, on arrête le cours de l'immigration.
Régulière.
Régulière.
Donc le regroupement familial, l'immigration de travail, par exemple. Le deal qu'on peut avoir avec la population française, c'est qu'on arrête cette immigration, mais on intègre tous ceux qui sont là. Aujourd'hui, les immigrés, c'est les plus mal logés. C'est ceux qui sont le plus au chômage et c'est ceux qui ont le plus de difficultés par nature.
Et dans un autre domaine, Gérald Darmanin a annoncé il y a quelques jours qu'il souhaitait également mettre fin à la prescription pour les crimes de sang. L'actuel ministre de la Justice, qui n'a pas caché ses ambitions présidentielles, avance donc pour s'affirmer comme un présidentiable crédible. Et il cherche à se démarquer ainsi de Gabriel Attal ou encore d'Edouard Philippe. Il est 11h et bientôt 53 minutes. Dans un instant, c'est la page sport avec notamment le handball et les joueurs français au pied du mur s'ils veulent atteindre les demi-finales de l'Euro.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Samedi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Pensez à réserver votre table au restaurant Le Bilboquet Plage au 26 46 60. Retrouvez la mini-carte spéciale Saint-Valentin sur la page Facebook Le Bilboquet Plage.
La rentrée chez Decathlon, du 14 janvier au 29 mars, c'est le vrai départ pour bouger. Tenues de classe ou de sport, chaussures, sacs, accessoires, tout pour une rentrée au top et toujours au meilleur prix. Avec maintenant deux magasins, toujours plus proches de chez vous, Nouméa à Centre-Ville et à Pogoty. Et aussi le site www.decathlon.nc avec livraison sur tout le territoire. Alors, à fond la rentrée!
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Oui, le sport avec d'abord l'Euro de handball et les Bleus ont perdu ce matin 36 à 32 face à l'Espagne. Du coup, Léo Fichou, la France est au pied du mur, pas
oui,
au dos du mur.
Les Bleus n'avaient pas le droit à l'erreur puisqu'ils s'étaient déjà inclinés contre le Danemark la semaine dernière. Nouvelle défaite donc contre l'Espagne. Ils se sont donc inclinés 36-32, une défaite assez logique contre des Espagnols qui étaient pourtant déjà éliminés de la compétition. Écoutez la réaction de Rémi Desbonnet, le gardien tricolore après la rencontre.
La chose, je sais pas si là c'est catastrophique, sûrement que c'était pas bon du tout. On savait que c'était une équipe piégeuse qui avait plus rien à perdre. Ils ont tenté beaucoup de choses, tantôt à 7, puis à 6, puis à de nouveau à 7. Et surtout, ils ont leur gardien qui fait un grand match aussi, qui n'en avait pas fait dans la compétition. Donc, tant pis pour nous, on est coupable de cette entame de match et on va dépendre des autres.
Fort heureusement pour les Bleus, l'Allemagne a perdu contre le Danemark ce matin, ce qui leur laisse encore une chance de se qualifier pour les demi-finales. Et pour ça, il faudra battre les Allemands jeudi matin à 4h, heure de Nouméa.
Un mot de sport d'hiver avec cette polémique autour de la sélection française de l'équipe de ski alpin pour les Jeux Olympiques de Milan-Cortina. La délégation tricolore n'a obtenu que 7, puis finalement 8 places pour les hommes au lieu des 11 espérées. Ce qui veut dire que plusieurs champions vont rester sur le carreau malgré leur palmarès et leur expérience. C'est le cas par exemple d'Alexis Pinturault, une situation qui fait grincer des dents et qui relance le débat sur les quotas et les critères de sélection. On va terminer cette page sport avec le tennis et les quarts de finale de l'Open d'Australie. Tous les favoris sont au rendez-vous.
Oui, effectivement, on pourrait presque dire que c'est un tournoi sans surprise puisque pour la première fois dans l'ère Open depuis 1968, les 6 principales têtes de série chez les hommes mais aussi chez les dames sont qualifiées pour les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Mais la deuxième semaine du tournoi s'annonce donc riche en chocs et en spectacles. Les fortes chaleurs attendues à Melbourne, plus de 40 degrés, pourraient redistribuer les cartes. Ce mardi, 4 rencontres sont au programme, avec chez les dames d'abord la numéro 1 mondiale Arina Sabalenka contre l'américaine Iva Jovic, tombeuse notamment de Jasmine Paolini. La rencontre vient de débuter. Arina Sabalenka a marqué le premier point. Dans l'autre quart, Coco Gauff, tête de série numéro 3, sera opposée à Elina Svitolina, 12e mondiale. Et puis chez les hommes, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz jouera contre l'Australien Alex de Minaur à domicile, tête de série numéro 6 du tournoi. Et l'Américain Lerner Tien, lui, défiera Alexander Zverev, l'Allemand numéro 3 mondial.
Merci Léo. Il est...